Eh bien voilà, il est le moment pour nous d'accueillir Jean-Christophe Becquet, trésorier de l'association Linux Alpes et vice-président de l'association L'April, et Arnaud Champollion, président actuel de Linux Alpes. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et puis on va commencer par Jean-Christophe Becquet. Vous allez vous présenter plus en détail, et puis l'association Linux Alpes, et ensuite l'association L'April.
Oui, bonjour et merci à Fréquence Mistral de nous donner la parole. Je suis donc Jean-Christophe Becquet, fondateur de l'association Linux Alpes en 99. Linux Alpes est un groupe local d'utilisateurs de logiciels libres qui a été fondé avec Boris Pounier à l'époque où il était animateur de l'espace culture multimédia de Digne au Centre culturel René Char. Nous étions à l'époque tous les deux animateurs multimédia avec comme mission de faire connaître l'informatique et les usages du multimédia au plus grand nombre. Il nous avait semblé opportun d'aborder l'entrée logiciel libre comme outil de démocratisation de l'informatique. Donc en 99, on crée l'association Linux Alpes avec comme objectif de regrouper les différents utilisateurs de logiciels libres sur les deux départements 04 et 05, avec à l'époque une antenne à Digne et une antenne à Veynes, qui continue d'ailleurs à exister aujourd'hui. Arnaud pourra le détailler tout à l'heure. Et puis une seconde casquette, donc, qui est la casquette April, association de promotion et de défense du logiciel libre, association qui agit au niveau national avec comme objectif de faire connaître le plus largement possible et à destination des publics les plus variés le logiciel libre et ses enjeux, et avec également une action politique qui donc voit le logiciel libre comme un outil de transformation de la société. Et donc pour ça, l'April mène des actions notamment à destination des candidats aux élections, puis des élus lorsque les élections sont passées, pour faire connaître et défendre le logiciel libre, point qu'on pourra détailler un petit peu tout à l'heure, puisque les deux députés du département, Christophe Castaner et Gilbert Sauvan, sont signataires du pacte du logiciel libre de l'April.
Alors moi je vais vous demander tout bêtement ce qu'on appelle un logiciel libre et à quoi ça sert et comment ça se passe.
Alors un logiciel libre, c'est un logiciel qui garantit à tout un chacun quatre libertés fondamentales. Les deux premières sont simples à comprendre pour le non-informaticien, parce qu'il suffit d'avoir utiliser un ordinateur et installer une fois dans sa vie un logiciel pour les comprendre. La première liberté, c'est la liberté d'utiliser le logiciel pour quelque usage que ce soit et sans restriction aucune. Donc un logiciel que vous pouvez utiliser quelle que soit la nature de votre besoin, sans limite de durée, sans limite ou contrainte d'utilisation. La deuxième liberté du logiciel libre, c'est la liberté de copier le logiciel, de le copier pour le partager avec vos amis, par exemple. Et puis, deux autres libertés plus difficiles à comprendre, mais qui sont porteuses d'enjeux pour qu'un logiciel puisse être un logiciel libre. Il faut également qu'on ait la liberté d'étudier le logiciel, d'aller voir comment il est fait à l'intérieur. On pourra expliquer tout à l'heure pourquoi, même si vous n'êtes pas informaticien, cette liberté d'étudier le logiciel, de soulever le capot en quelque sorte, vous concerne. Et puis quatrième et dernière liberté pour qu'un logiciel soit un logiciel libre, c'est la liberté de modifier le logiciel pour l'adapter à vos besoins et de redistribuer, de partager à votre tour les versions modifiées. Et là, à nouveau, on verra que ce n'est pas un problème qui concerne uniquement les informaticiens, les développeurs, ceux qui ont la compétence de modifier les logiciels. Même si vous n'êtes pas informaticien, même si vous n'avez pas cette compétence de modifier les logiciels, ces libertés vous concernent et on expliquera en quoi.
Alors, est-ce qu'on donne la parole à notre second invité, Arnaud Champollion, président de l'association Linux Alpes. Bonjour.
Bonjour. Voilà, je remercie également Fréquence Mistral de nous permettre de faire connaître les enjeux du logiciel libre et de présenter l'action locale de Linux Alpes. Donc, j'ai rejoint l'association Linux Alpes en 2008 et j'en suis l'actuel président. Et ce qui est assez caractéristique, c'est que il y a quelques années dans des associations du type Linux Alp, ce qu'on appelle des groupes d'utilisateurs Linux. On avait principalement des gens issus du milieu informatique, scientifique, c'est-à-dire que le logiciel libre, on peut dire entre guillemets, était une affaire de spécialistes, d'informaticiens. Aujourd'hui, le président de Linux Alp, c'est un instituteur. Voilà. Donc typiquement, je suis absolument pas technicien, je suis peut-être un petit peu technophile, effectivement, je suis curieux d'essayer autre chose, et surtout, ce qui m'a motivé en premier pour faire un pas vers le logiciel libre, c'était, comme beaucoup de monde, j'ai un ordinateur sous Windows, et puis j'aimerais bien. On m'a dit qu'il y avait un autre système qui pouvait le remplacer, qui s'appelle Linux, qui présente certains avantages, dont le fait d'être un logiciel libre, donc moi c'est comme ça que j'y suis entré. Et des gens comme des instituteurs, et il y a aussi des fleuristes, on a des coiffeurs, on a tout un tas de professions, on a des pères et des mères de famille qui utilisent des logiciels libres.
Alors pourquoi on vient à ce Linux parce que Windows n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce qui motive les gens à vouloir? Parce qu'il faut tout déprogrammer pour reprogrammer, c'est ça? Ça demande une mise en place, c'est compliqué?
Justement, effectivement, on en est venu à parler de Linux parce qu'en fait, peut-être pour rappeler à tous les auditeurs, comme on a parlé de logiciels libres, en fait, Linux, c'est un des logiciels libres. Et c'est un logiciel libre qui est très important puisqu'il existe des logiciels libres pour faire de la bureautique, comme par exemple LibreOffice ou OpenOffice, que certains connaissent peut-être. Il existe des logiciels libres pour surfer sur Internet, comme Firefox, par exemple, des logiciels libres pour écouter de la musique, comme VLC. Il existe aussi des logiciels libres pour faire fonctionner l'ordinateur, tout simplement, comme Linux. Et d'où le nom de l'association Linux Alp. Et justement, et après je vous explique, on parlera un petit peu techniquement, mais sur les départements 0405, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes, Linux Alp organise justement donc des réunions mensuelles, une fois par mois à Digne, une fois par mois à Gap, une fois par mois à Veynes, à Manosque et depuis peu à Briançon. Et donc, ces soirées prennent généralement la forme de réunions, d'échanges et d'entraide.
Donc, est-ce que chacun vient avec son ordinateur? Comment ça se passe?
Ça ressemble un petit peu souvent à ça. Chacun vient avec son ordinateur, ce n'est pas obligatoire du tout. Mm-hmm. Et chacun vient avec ses attentes et ses questions. Donc, le principe général qu'on a mis en place, c'est ceux qui savent être ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas de questions idiotes et tout le monde peut venir poser sa question. Et sur certains sites et certaines réunions, on pose d'emblée un thème. Par exemple, ça peut être aujourd'hui, on va vous faire découvrir des logiciels de graphisme libre. Donc on va présenter des logiciels comme GIMP, par exemple, à la place d'un logiciel propriétaire comme Photoshop. Ou on va présenter LibreOffice comme logiciel libre alternatif par rapport à la suite Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Et ça peut être, et c'est une demande assez fréquente des gens nouveaux qui viennent, effectivement, comme vous l'avez soulevé, c'est j'ai un ordinateur sous Windows, j'ai appris qu'on pouvait y mettre Linux. Comment on fait? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile?
Voilà. Parce qu'il y a des histoires de compatibilité aussi quand on achète. Au niveau des logiciels. Si moi je fais par exemple Audacity, ce genre de choses, il y a.
Alors c'est génial parce que Audacity est un logiciel libre.
Ah bon?
Et c'est la preuve qu'on peut utiliser des logiciels libres en fait sans le savoir. Mm-hmm. Les logiciels libres aujourd'hui, comme Arnaud le disait, se sont fortement démocratisés, fortement répandus. Et en fait, on a tous, sans le savoir, des logiciels libres à la maison.
Par exemple, le système d'exploitation Linux, vous l'avez certainement chez vous. Si vous avez une Livebox, Freebox, Alicebox ou quoi que ce soit, la grande majorité, alors là, comme je ne suis pas technicien, je ne sais pas si c'est la totalité ou la grande majorité, mais de ces box qui vous fournissent l'accès à Internet, en fait, ce sont des mini-ordinateurs qui, à l'intérieur, fonctionnent avec le système Linux. Mm-hmm. Pour des raisons de performance et de robustesse, c'est le système qui a été choisi par les constructeurs. Voilà.
Parce que les logiciels, normalement, vous dites que on peut copier gratuitement, puisque c'est quand même un sacré coût pour à chaque fois qu'on a envie de s'équiper correctement, que ce soit en logiciel photo ou musique ou comment. En fait, il n'y a plus rien de payant avec votre.
Alors, les logiciels libres sont souvent gratuits. mais la gratuité n'est pas la meilleure raison pour venir au logiciel libre. Il est vrai que souvent, notamment le grand public, les particuliers ou alors les petites associations ou les petites collectivités peu fortunées s'intéressent au logiciel libre la première fois parce que c'est un moyen d'accéder à des logiciels qui sont gratuits, librement téléchargeables, librement et gratuitement installables sur son ordinateur. On pourra expliquer tout à l'heure comment, bien qu'ils soient téléchargeables gratuitement, les logiciels libres peuvent être financés, comment leur développement peut être financé. Mais la gratuité n'est pas la principale ou la plus importante raison de s'intéresser aux logiciels libres. La plus importante raison de s'intéresser aux logiciels libres, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique est partout. L'informatique est partout dans nos vies. Quand on fait nos courses et qu'on paye nos achats, on passe par un ordinateur. Quand on va chez le médecin, il insère notre carte vitale dans un ordinateur. Et aujourd'hui, tous les aspects de notre vie quotidienne sont informatisés. Et le fait que l'informatique soit à ce point-là répandue, à ce point-là incontournable pour tous les actes de notre vie quotidienne, pose la question de notre rapport à l'informatique. Et notre rapport à l'informatique, dans la plupart des cas, et avant qu'on s'intéresse au logiciel libre, c'est un rapport qui est un rapport à une boîte noire. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur avec des logiciels à l'intérieur, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, et on fait confiance. Le problème de faire confiance, c'est que lorsqu'il s'agit de notre santé, lorsqu'il s'agit de l'éducation de nos enfants, lorsqu'il s'agit d'expression citoyenne ou de liberté de parole, faire confiance à des multinationales, ça peut poser question, ça peut être gênant. Et donc le logiciel libre, c'est surtout une réponse à ce problème, c'est de ne plus considérer l'ordinateur et l'informatique comme une boîte noire à laquelle on confie les aspects les plus intimes de notre vie, mais c'est d'essayer d'amener les gens à comprendre et à maîtriser l'outil informatique auquel ils confient des aspects aussi importants de leur vie quotidienne.
Combien de personnes aux réunions à peu près enfin, ça se développe à Digne
Alors, sur Digne, ça va de 5 à 20 personnes selon les soirées. Ça peut être très variable selon le moment de l'année. Voilà, on a eu des pics de fréquentation. C'est une activité qui, alors sur Digne notamment, a démarré seulement depuis le mois de juillet. Notre première soirée à Digne, c'était à ce moment-là. Et donc nous avons continué, on a commencé peut-être à 8-9 personnes, parfois il arrive qu'on soit 12, voilà.
J'imagine essentiellement, enfin, une majorité d'hommes.
Alors,
ou jeunes, ou...
Oui et non. Traditionnellement, le milieu du logiciel libre, il est lié au milieu de l'informatique et il est effectivement essentiellement masculin. Cela dit, c'est quelque chose également qui est en train de se démocratiser, de la même manière qu'on trouvait avant pas de fleuriste ou d'instituteur dans le logiciel libre. Aujourd'hui, on trouve aussi des femmes, des hommes, on trouve aussi des personnes âgées, des jeunes. Il nous est arrivé d'avoir des grands adolescents qui participent aux soirées. Et nous avons des personnes qui sont un peu, en tout cas sur les réunions de Digne, nous avons des personnes à peu près de tous âges. On a des retraités, on a des personnes actives. J'ai l'impression que toutes les catégories d'âge sont à peu près représentées. Et en plus, je dirais pas toutes les professions, mais une certaine diversité.
Est-ce que c'est gratuit, les réunions ?
Oui. Alors, le principe, c'est que les soirées donc, sont animées par les bénévoles de l'association. Vient qui veut, la participation est libre et gratuite. Et libre à chacun d'adhérer ou non à l'association. C'est ce qui se passe souvent, de toute façon, pour les gens qui viennent régulièrement. Ce qui leur permet aussi d'avoir un sentiment d'appartenance et puis de participer davantage au fonctionnement, notamment sur des événements ponctuels annuels comme Libre en Fête.
Ah oui, vous allez nous en parler, voilà. Donc de Libre en Fête.
Mais peut-être vous vouliez que je vous détaille un petit peu concrètement, quand on vient dans une soirée Linux avec son ordinateur, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les questions auxquelles on a l'habitude de répondre.
Exactement, moi j'ai besoin de concret. Alors, dites-moi, comment ça se passe une soirée ?
On va dire la demande récurrente qui revient et qui est un petit peu la raison d'être, puisque le nom, c'est Linux Alps, c'est voilà, j'ai un ordinateur qui fonctionne avec Windows,
il est lent, j'ai des virus dessus, j'ai l'impression un petit peu quand j'ai acheté mon ordinateur 600 € d'avoir payé 450 € de matériel et qu'il y avait 150 € de licence Windows et Word et autre chose qui m'ont été forcés. Finalement, ça ne me plaît pas. J'ai entendu dire qu'il y avait autre chose qui s'appelait Linux, qui n'avait quasiment pas de virus, qu'on n'avait pas besoin d'y mettre un pare-feu, que ça marchait très bien, mais que je ne savais pas trop comment l'installer. Voilà, est-ce que vous pouvez m'aider ? Donc là, on va donner un petit peu notre expertise et cette personne-là, on va l'accompagner, on va l'installer ensemble et puis on va l'accompagner dans la découverte de son environnement. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure sur compatibilité, incompatibilité, il est évident par contre que les logiciels qui sont prévus pour fonctionner sous Windows ne fonctionnent que sous Windows, et les logiciels qui sont prévus pour fonctionner sous Linux ne fonctionnent que sous Linux, de la même façon que les logiciels qui sont prévus pour fonctionner sur macOS, le système des ordinateurs vendu par la marque Apple, ne fonctionnent que sur le système macOS. En revanche, il existe des logiciels, et c'est le cas pour un grand nombre de logiciels libres, qui existent en plusieurs versions. Par exemple, Audacity est un logiciel libre dont il existe une version qui fonctionne sous Windows, mais il existe aussi une version qui fonctionne sur macOS et également une version sur Linux. Ça sera le même logiciel avec les mêmes fonctionnalités. Quand je dis version différente, ça veut simplement dire que ça a été compilé, ça a été mis en forme pour que techniquement ça marche avec Windows, Linux ou macOS, mais ça veut dire que si on est déjà utilisateur de Audacity ou d'autres logiciels comme LibreOffice, OpenOffice, VLC, Firefox, tous les logiciels que j'ai cités existent sur Windows et sur Linux. On dit que ces logiciels ils sont multiplateformes. Ça veut dire que si ceux-là, vous les connaissez déjà et que vous avez l'habitude de les utiliser, si vous installez un système Linux, eh bien, vous pourrez retrouver ces mêmes logiciels. Donc du coup, ce ne sera pas à réapprendre. Par contre, si vous utilisez, et c'est souvent le cas avec les logiciels propriétaires, donc propriétaire, c'est le contraire de logiciel libre. On va dire un logiciel propriétaire comme la suite Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel. Cette suite-là n'est prévue pour fonctionner exclusivement que sur Microsoft Windows. Donc forcément, là, si on va vous installer Linux sur l'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser ce logiciel-là. Ça veut dire qu'il faudra penser à utiliser un autre logiciel qui fait le même travail, comme OpenOffice ou LibreOffice. Voilà. D'où l'avantage de déjà, même si on est sur un autre système d'exploitation, utiliser déjà des logiciels libres, c'est qu'on a une grande chance de les retrouver sur un autre système. Et ça, c'est une caractéristique majeure des logiciels libres. C'est-à-dire que, et là, on va en venir tout à l'heure, Jean-Christophe a expliqué qu'une des caractéristiques du logiciel libre, c'est qu'on a le droit de le modifier. Et comment on a le droit de le modifier ? Mais n'importe qui a le droit de le modifier. Ça veut dire que, du coup, il suffit qu'il y ait 20 personnes qui utilisent le système bidule pour que ces 20 personnes-là, si elles en ont besoin, elles vont modifier le logiciel pour l'adapter à ce qui fonctionne sur leur système. Ce qui fait qu'en résultat, les logiciels libres sont très souvent disponibles sur plusieurs systèmes à la fois. C'est-à-dire que très souvent, les logiciels libres, vous allez les retrouver sur à la fois Windows, macOS, Linux, parfois même sur Android, les systèmes d'exploitation qui équipent les téléphones portables, notamment. Et vous allez sur, et j'en passe et d'autres, Solaris et compagnie. Comme le code est modifiable, on a du coup la possibilité de l'adapter. Et donc ça fait que dans le monde entier, il se trouve très souvent des gens qui vont pouvoir l'adapter pour en faire en sorte que ça marche sur les différents systèmes. Donc du coup, vous allez pouvoir effectivement retrouver vos logiciels libres que vous utilisez déjà sous Windows sur votre système Linux.
Un autre exemple d'intérêt de la possibilité de modifier le logiciel, c'est la traduction. Lorsque on souhaite utiliser un logiciel et que ce logiciel n'existe qu'en anglais, par exemple, si c'est un logiciel libre, on a le droit et la possibilité technique de traduire ce logiciel. Et ce qu'on observe en fait avec les logiciels libres, c'est un petit peu comparable à ce qui se passe dans le domaine de la recherche médicale, où il y a ce qu'on appelle des maladies orphelines pour lesquelles, parce que ce n'est pas rentable financièrement, on ne trouve pas de laboratoire pour faire des recherches et pour trouver des vaccins ou des traitements pour soigner ces maladies. Bien, dans le monde du logiciel propriétaire, c'est pareil, si vous avez un logiciel et que ce logiciel n'est pas traduit dans votre langue et que votre langue est minoritaire, que vous n'êtes que quelques locuteurs à parler cette langue, eh bien, il y a très peu de chances que vous arriviez à convaincre l'entreprise de traduire le logiciel dans votre langue. Avec un logiciel libre, il vous suffit de faire la traduction et de trouver l'informaticien qui a les compétences techniques pour intégrer la traduction dans le logiciel et faire une nouvelle version, et le logiciel peut exister dans votre langue. Ce qui fait qu'un grand nombre de logiciels libres existent le premier jour de leur sortie dans une très grande variété de langues, des langues évidemment parmi les plus répandues, français, anglais, italien, allemand, espagnol, mais également des langues plus rares, voire des langues locales comme l'occitan ou le breton. Il suffit qu'il y ait une association, un groupe de personnes qui est intéressé par cette traduction, et alors elle devient possible.
Alors, est-ce qu'on parle du comment vous avez appelé ça ?
Libre, en fait.
Libre, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ?
Alors, sur la présentation nationale, peut-être que Jean-Christophe pourra en dire deux mots, parce que c'est soutenu et organisé par rapport à l'April.
Alors, effectivement, Libre, en fait, est une manifestation nationale coordonnée par l'association April, avec comme objectif de promouvoir, faire connaître au plus grand nombre le logiciel libre. Le principe de Libre, en fait, est extrêmement simple. Il y a dans chaque région, dans chaque ville de France, une association petite sœur de Linux Alpes qui a comme objectif de regrouper les utilisateurs de logiciels libres à l'échelle d'un territoire. Et une fois par an, au moment du printemps, autour du 21 mars, l'April invite tous les groupes d'utilisateurs de logiciels libres à organiser ensemble, chacun dans leur région, des événements, des manifestations, des rencontres autour du logiciel libre. Ça peut être des journées consacrées à des démonstrations, à des présentations de logiciels libres, ça peut être des conférences, des expositions. Et donc Linux Alpes participe à la manifestation libre, en fait, depuis sa création. L'intérêt, c'est que comme on est un grand nombre d'associations partout en France à se coordonner, on peut avoir un impact en termes de communication et de promotion beaucoup plus important. Et donc, ce que fournit l'April, c'est simplement un outil de coordination à travers notamment un agenda en ligne qui permet à chaque association de déclarer les événements qu'elle organise dans sa ville, et ensuite au tout public, au grand public, de consulter cet agenda pour trouver les événements qui se déroulent près de chez eux.
Des choses à rajouter, Arnaud ?
Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est que, en même temps, comme je suis enseignant,
oui.
Donc j'ai des élèves de 5 ans et 6 ans dans ma classe, et j'enseigne également parfois à des élèves un peu plus âgés.
Vous enseignez l'informatique aussi ?
J'enseigne aussi l'informatique.
Mais pas auprès de ces enfants ?
Non, auprès d'enfants plutôt dans la tranche d'âge 8-10 ans, CE2, CM1, CM2, oui. Sur une activité hors temps scolaire qu'on appelle contrat éducatif local, qui est géré par la mairie de Digne-les-Bains. Mmh. J'aimerais vous faire part de mon expérience d'utilisateur de logiciels libres, donc pour le coup pas programmateur, pas développeur, mais simple utilisateur de logiciels libres dans mon métier d'enseignant. Ceci afin de vous donner un éclairage sur le fait que le logiciel libre concerne un grand nombre de professions. Donc dans ma classe, j'ai 6 ordinateurs, mm-hmm. qui sont 6 ordinateurs de récupération, et qui m'ont été donnés par l'administration sans les licences de systèmes d'exploitation qu'ils avaient. Concrètement, ces deux ordinateurs étaient installés avec Windows XP, mais les licences appartenaient à l'administration qui me les a données. Donc le contrat était que les ordinateurs devaient être formatés et réinstallés avec le système de mon choix en toute légalité. Donc mon choix s'est porté bien évidemment sur un système Linux. Et un système Linux, alors il en existe plusieurs, des systèmes Linux. Hein. On appelle ça des distributions. On appelle ça des distributions parce qu'en fait, Linux, c'est le nom technique du noyau du système, ce qui fait fonctionner, c'est un peu comme le moteur de la voiture. Sauf que pour faire fonctionner un ordinateur, pour une voiture, on a besoin du moteur, mais également des sièges, des roues, de la carrosserie et des pédales. Et bien pour faire fonctionner un ordinateur, on a besoin du noyau Linux, mais on a besoin également de logiciels pour écrire du texte, on a besoin d'un logiciel qui nous affiche des fenêtres et qui nous déplace le pointeur de la souris. Et c'est en fait un ensemble de programmes qui fait que l'ordinateur est utilisable. Donc on appelle ça une distribution. Voilà. Et donc du coup, il existe plusieurs distributions de Linux qui sont packagées sous forme de CD-ROM installables. Ou maintenant, ça peut être aujourd'hui sur clé USB ou autre. Hein. Et parmi ces distributions, une distribution qui est particulièrement adaptée grand public, qui s'appelle Ubuntu, U-B-U-N-T-U. Et c'est la distribution qui actuellement a été choisie pour équiper donc, les ordinateurs de ma classe. C'est une distribution qui est facile d'accès, qui présente des outils qui sont ressemblants à d'autres systèmes d'exploitation
connu du grand public. On retrouve des menus, des icônes, des clics de souris. C'est assez frappant de similitudes en termes d'ergonomie de fonctionnement, voire parfois plus simple, notamment au niveau de l'installation. Et donc sur ces systèmes Linux qui s'appellent Ubuntu, j'ai installé toute une série de logiciels libres éducatifs. Donc de logiciels libres dont le but est d'apprendre à faire du français, des maths, de l'histoire géo. Alors on peut citer quelques-uns des logiciels par exemple que je fais utiliser à mes élèves. Il y a un logiciel qu'on appelle une suite éducative qui s'appelle J'ai compris. Suite éducative parce que ça, en fait, ça regroupe plusieurs exercices dans différentes disciplines. Alors J'ai compris, ça s'écrit avec un G, la lettre G, puis le mot compris.
Façon SMS, quoi.
Exactement. Encore une fois, c'est un logiciel qui est disponible dans un grand nombre de langues, ce qui fait qu'en plus, pour certains exercices, on peut le détourner sur l'apprentissage des langues étrangères. Si je mets « j'ai compris » en langue anglaise et que je travaille les couleurs, tout d'un coup, je travaille le vocabulaire des couleurs en anglais. Voilà. Après, il y a une série de logiciels, par exemple, libres et gratuits, que j'utilise, qui s'appelle également « Abuledu ». Donc là, nous avons des exercices en français, en mathématiques... Et une des stars des logiciels libres éducatifs s'appelle TuxPaint, T-U-X-P-A-I-N-T. Voilà. Et ce logiciel, en fait, est un logiciel de dessin qui propose des outils ludiques. Ça peut, par exemple, apprendre à des enfants déjà de 3 ans la simple manipulation de la souris. Et nous l'avons notamment utilisé à de nombreuses reprises pour réaliser des illustrations de livres que les élèves avaient écrits. Voilà. L'avantage d'utiliser des logiciels libres en classe, alors en dehors des logiciels éducatifs, il y a également simplement les traitements de texte que je choisis pour faire utiliser à mes élèves sont uniquement des logiciels libres. Et l'avantage, c'est que tous les logiciels libres, tous les logiciels qui sont utilisés en classe, comme ils sont libres, ils sont librement copiables. Je peux donc en fournir en toute légalité une copie à n'importe quel élève qui m'en demande pour pouvoir l'utiliser à la maison. Et comme ces logiciels sont majoritairement multiplateformes, donc Linux, Windows, Mac, etc., j'ai quasiment toujours une version à leur proposer qui correspond à leur système. S'ils me disent à la maison j'ai Mac, je leur dis tiens, tu pourras avoir TuxMat pour ton Mac. S'ils me disent je voudrais TuxPaint, mais moi j'ai Windows, mais il n'y a pas de problème, tu peux l'avoir pour ton Windows, etc. Et dans tous les cas, je suis dans la plus parfaite légalité à leur copier ce logiciel pour eux, où ils peuvent librement le télécharger sans aucun surcoût, puisque les logiciels libres sont majoritairement libres une fois qu'ils ont été financés, une fois qu'ils sont développés. Et ça, après, c'est un thème qu'on pourra développer, c'est qui fait des logiciels libres et pourquoi on fait des logiciels libres, alors que finalement, c'est pour les distribuer gratuitement après aux personnes. En tout cas, le résultat, c'est que les élèves, ils ont accès au même logiciel qu'à l'école, à la maison, et ça sans surcoût. Donc au niveau de l'égalité, c'est un thème qui me paraît intéressant.
Le nombre d'heures que peuvent passer des enfants en classe sur un ordinateur ?
De toute façon, comme disait Jean-Christophe tout à l'heure, l'ordinateur aujourd'hui est partout. Mm-hmm. L'informatique est présente. Là, je vois par exemple, dans le studio dans lequel on se trouve, il y a 2 ordinateurs en fonctionnement, rien que pour enregistrer l'émission. Voilà. Donc à un moment donné, les élèves de toute façon sont confrontés quotidiennement à l'informatique. Donc à nous, enseignants, de les amener vers une maîtrise de cet outil qui de toute façon est entre leurs mains. Donc au même titre qu'un dictionnaire, qu'un livre, qu'un stylo, un cahier, l'outil informatique doit être maîtrisé en tant qu'outil. Donc il y a 2 dimensions en fait dans l'enseignement de l'informatique. Il y a l'ordinateur en tant qu'outil au service des autres disciplines. Par exemple, j'utilise un ordinateur pour faire mes recherches en histoire, pour faire mes recherches en géographie, pour écrire mon texte que j'ai produit. Et donc, j'apprends à utiliser l'ordinateur et j'apprends à maîtriser les menus fichiers enregistrés. J'apprends à être utilisateur du système. Et puis, il y a un deuxième volet qui est l'informatique en tant qu'objet d'étude. C'est-à-dire de la même manière qu'on enseigne aux élèves l'astronomie, le fonctionnement des planètes, l'électricité, le plus, le moins, etc. Eh bien, on peut aussi envisager l'informatique à l'école comme objet d'étude, à ce moment-là, à l'intérieur de la matière sciences et technologies. Alors ça, c'est actuellement dans les programmes de l'école élémentaire et même du collège. Ce volet-là n'est pas développé par les programmes officiels. C'est la raison pour laquelle, actuellement, je fais de l'enseignement de l'informatique en tant qu'objet d'étude, c'est-à-dire j'apprends aux élèves
à programmer, à fabriquer des logiciels, mais ça, je le fais sur le temps justement contrat éducatif local. Là, on n'est plus dans les objectifs de l'enseignement général. Cela dit, il existe, ça va, ça vient, des options au lycée où, dans lesquelles les élèves peuvent faire de l'informatique en tant qu'objet d'étude et apprendre effectivement les langages de programmation. Alors ça, ce sont des sujets de débat et ce sont des positions. Il y a l'April, notamment, a des positions sur ces sujets-là.
C'est extrêmement important, en fait, que l'enseignement de l'informatique puisse avoir une place à l'école, parce que, comme j'insistais tout à l'heure, l'informatique est présente dans tous les aspects de notre vie, et il y a une idée fausse extrêmement répandue dans l'esprit des parents et des éducateurs, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ou les enfants qui sont nés après les années 2000, seraient nativement maîtriseraient les ordinateurs et les objets technologiques, et c'est vrai que lorsqu'on est peu familier avec le numérique et qu'on voit un enfant de 8 ans avec un ordinateur portable entre les mains, on peut avoir l'impression, on peut avoir l'illusion que, en fait, il maîtrise cet objet sans faire d'effort, naturellement, intuitivement. Malheureusement, un enfant entre les mains duquel on met des objets technologiques mais sans lui en expliquer le fonctionnement, les principes, les risques, peut avoir une utilisation qui ne sera pas à son service, mais qui sera au service des constructeurs et des vendeurs de logiciels ou des vendeurs de publicité, notamment, qui équipent ces ordinateurs. Et donc, un des enjeux du logiciel libre, c'est d'outiller les enfants pour leur permettre de faire un usage maîtrisé de ces technologies. Non pas juste savoir cliquer, mais comprendre ce qu'il se passe lorsqu'on clique. Et comprendre ce qu'il se passe lorsqu'on clique, pas forcément pour en faire son métier, pas forcément pour devenir informaticien, mais pour maîtriser cet objet technologique qui est devenu à ce point-là important, à ce point-là omniprésent dans nos vies. Et un autre enjeu également du logiciel libre qui rend sa présence à l'école si importante, à l'école et dans les dispositifs périphériques de l'école comme le contrat éducatif local ou les associations de formation et d'éducation populaire, c'est le partage des savoirs. Les personnes qui développent des logiciels libres, les gens qui font la promotion du logiciel libre sont unanimement animés par l'idée qu'il est important que les gens, les enfants, mais aussi les adultes, comprennent le monde qui les entoure. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'a très bien décrit Arnaud, les réunions, les rencontres de l'association Linux Alp ou les manifestations type Libre en Fête se passent sur un mode proche de ce qu'on trouve dans les réseaux d'échange réciproque de savoir. Le principe, comme l'a dit Arnaud, ceux qui savent montrent à ceux qui ne savent pas. Et ce qui est assez fascinant et assez émouvant dans les réunions Linux Alp, c'est quand, lorsqu'on voit une personne qui n'a participé qu'à 5-6 réunions, qui a installé des logiciels libres aidés par les autres sur son ordinateur, qui a appris des petites choses, prendre la main du débutant, de celui qui vient pour la première fois, et lui dire « Viens, moi on m'a expliqué la dernière fois, je vais te montrer. Voilà. » Et ça, c'est vraiment ce dont on fait la promotion au sein de l'association Linux Alp. Et le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment que pour participer à ces réunions, il n'y a pas besoin d'être technicien, il n'y a pas non plus besoin de souhaiter dès la première réunion, installer des logiciels libres sur son ordinateur. On peut venir en simple observateur, les mains dans les poches.
C'est ce que je comptais faire pour vraiment prendre la température et voir comment ça se passe une réunion. Je pense que c'est important de...
Il n'y a vraiment aucune obligation. Voilà, la participation est ouverte, libre et gratuite à tous. Et comme l'a dit Arnaud, il y a des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des ados, des retraités. Donc, il faut vraiment venir avec simplement un esprit d'ouverture, une envie de découverte. Si on a des questions, on peut les poser. Si on n'a pas de questions, on peut simplement s'asseoir à la table et écouter ce qui se passe. Et en général, les personnes en ressortent enrichies de nouvelles compréhensions, de nouveaux savoirs. Et nous, on considère qu'on a réussi lorsque les personnes reviennent et qu'au bout de quelques séances, elles partagent à leur tour ce qu'elles ont appris avec les nouveaux. Et puis que le réseau comme ça des utilisateurs de logiciels libres peut s'enrichir et se dynamiser, s'élargir.
Alors quand comme disait tout à l'heure Arnaud, qui fabrique des logiciels libres et pour qui, oui, pour...
Alors aujourd'hui, on peut résumer la fabrication des logiciels libres de manière un petit peu caricaturale, un petit peu synthétique, mais pour permettre de comprendre, on peut dire qu'il y a trois types de personnes qui développent des logiciels libres. Il y a d'une part des bénévoles, des amateurs éclairés, qui développent des logiciels libres par passion, parce que ça les amuse un petit peu, comme d'autres personnes vont donner des cours de karaté ou d'escalade le mardi soir à des enfants parce qu'ils ont envie de partager cette passion. Il y a des personnes qui développent des logiciels libres.
Ça s'apprend à créer un logiciel.
Tout à fait, ça s'apprend. Et le fait de participer à des logiciels libres est la meilleure école pour apprendre l'informatique, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, comme la troisième liberté des logiciels libres, c'est la liberté d'étudier leur mode de fonctionnement, ça veut dire qu'on a entre les mains une voiture dont on peut soulever le capot, dont on peut démonter toutes les pièces, les remonter, les assembler autrement. Et donc, c'est un outil pédagogique extraordinaire pour l'enfant, l'ado, le jeune qui veut, jeune ou moins jeune, qui veut apprendre l'informatique. Donc voilà, première catégorie de personnes qui développent des logiciels libres sont des personnes qui développent des logiciels libres parce que ça les passionne, parce que ça les amuse, parce que c'est un moyen pour elles d'apprendre les langages de programmation, d'apprendre à développer des logiciels. La deuxième catégorie de personnes qui développent des logiciels libres, ce sont des personnes qui ont, au sens très large du terme, un métier assimilé fonctionnaire, qui sont payés par la collectivité pour assumer une mission de service public. Alors, dans cela, on trouve les enseignants, évidemment, un enseignant qui, dans son travail, dans son temps de travail, a plusieurs missions. Il a une mission qui est d'être en face à face avec une classe, avec des élèves ou avec des étudiants. Et puis, il a une mission qui est de préparer des cours, des supports de cours, des exercices. Et les enseignants qui travaillent selon le mode du logiciel libre considèrent qu'à partir du moment où ils ont développé pour leurs élèves de terminale un logiciel graphique d'enseignement de la géométrie, ce logiciel peut intéresser tous les autres enseignants de terminale, mais surtout les élèves de terminale. Et donc en publiant, en rendant disponible leur logiciel sous licence libre, en le proposant au téléchargement libre et gratuit sur le réseau Internet, eh bien, il participe à l'enrichissement d'un pot commun d'outils pédagogiques, d'outils d'enseignement. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'enseignant qui fait ça, on peut avoir l'impression que c'est un don gratuit d'un logiciel qui lui a pris du temps à développer. Mais en fait, l'expérience du logiciel libre, c'est que lorsqu'on publie un logiciel sous licence libre, lorsqu'on donne son logiciel, on va assez rapidement avoir des retours sous forme de contributeurs. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple simple, un enseignant développe un logiciel pour l'enseignement du théorème de Pythagore, le publie sur le réseau Internet. Un autre enseignant le télécharge, l'utilise dans sa classe pour enseigner le théorème de Pythagore et se dit « mais c'est super ce logiciel, mais il manque Thalès ». Et donc il va développer le module permettant d'enseigner le théorème de Thalès, il va le publier à son tour sur le réseau et ça va permettre au premier enseignant d'avoir non pas un logiciel qui permettait d'enseigner le théorème de Pythagore, mais d'avoir un logiciel qui permet d'enseigner Pythagore et Thalès. Et si les enseignants sont quelques centaines ou quelques milliers, assez rapidement ils vont pouvoir couvrir l'intégralité des programmes scolaires et offrir des logiciels très performants, très complets, très riches. Les enseignants ne sont pas les seuls fonctionnaires à développer des logiciels libres. On a pas très loin de chez nous la ville d'Arles, qui est pionnière en matière de développement de logiciels libres de collectivité. Donc une mairie a un certain nombre de métiers. Elle gère par exemple des listes électorales, elle gère des registres d'état civil, elle gère un cadastre. Et pour chacun de ces métiers, aujourd'hui, les agents ont besoin de logiciels qui permettent de les aider dans leurs tâches. La ville d'Arles est une des initiatrices d'une suite logicielle, c'est-à-dire un ensemble de logiciels qui s'appelle Open Mairie, qui vise à outiller les mairies dans l'exercice de leurs différents métiers. Ce qui est extraordinaire avec le logiciel libre, c'est que dès lors que quelques collectivités se sont mises autour de la table pour financer le développement d'un logiciel de gestion des élections, eh bien les 36 000 communes de France peuvent déployer, installer, télécharger ce logiciel sur leurs ordinateurs et en faire bénéficier leurs services. Et on trouve aujourd'hui des logiciels pour la plupart des métiers exercés à l'intérieur d'une mairie, disponibles sous licence libre. La ville d'Arles en a initié un grand nombre. Elle a été suivie par plusieurs collectivités partout en France et même dans d'autres pays d'Europe. Et l'offre commence à être d'une qualité extrêmement intéressante. Tout près de chez nous, la ville de Fort-Calquier est en train de déployer un logiciel libre de gestion du courrier qui permet de numériser tous les matins le courrier arrivé dans les différents services de la mairie, d'informer les différents agents des courriers qu'ils ont à traiter et d'avoir une fonction d'archivage et de classement du courrier. Donc ce logiciel étant un logiciel libre, son développement initial a été financé par quelques collectivités parmi lesquelles la ville d'Arles et les autres collectivités peuvent en bénéficier. Donc deuxième type de développeur de logiciel libre, la fonction publique. Et lorsque l'argent public finance des développements de logiciels libres, l'intérêt c'est qu'ensuite tout le monde peut en profiter. Et enfin, troisième et dernier développeur de logiciels libres, et ça peut sembler plus surprenant, en tout cas c'est moins intuitif, eh bien ce sont des entreprises, des professionnels. Et là, on est étonné parce qu'on sait à quel point le monde de l'entreprise est un monde dans lequel règne la compétition, la rivalité, et on ne pense pas a priori à des entreprises qui seraient, comme je l'évoquais de manière un petit peu idéaliste tout à l'heure, l'entraide, le partage des savoirs. Or, l'expérience montre que même pour des entreprises, et même pour celles qui sont dans les champs industriels parmi les plus concurrentiels, eh bien, il y a un intérêt à développer des logiciels libres. Et là, je peux donner un exemple, c'est celui de l'industrie automobile. Lorsque vous démarrez votre voiture, comme dans chaque acte de votre vie quotidienne, vous démarrez un ordinateur. Vous avez dans votre voiture un ordinateur qui gère l'ABS, qui gère les différents dispositifs électroniques embarqués à l'intérieur du véhicule. Et le développement d'un logiciel embarqué dans un véhicule est une opération extrêmement coûteuse parce que, évidemment, si le programme qui gère votre dispositif de freinage ou votre direction assistée venait à être défaillant, c'est la vie des personnes qui est en jeu. Et donc, on a besoin de logiciels qui soient développés de manière très, très minutieuse, de manière très, très méticuleuse, qui soient testés, vérifiés, contrôlés, également agréés par les administrations en charge de la sécurité pour pouvoir être embarqué à bord des véhicules. Et donc, ça coûte très cher. Mais en même temps, ça n'est pas quelque chose de discriminant. Lorsque un constructeur automobile vous vante son dernier modèle, il va vous vanter le design de la carrosserie, il va vous vanter le confort intérieur, il va vous vanter les options qui améliorent votre utilisation du véhicule. Mais il ne va jamais vous dire que ce qu'il y a d'extrêmement innovant dans ce véhicule, c'est la dernière version du logiciel embarqué sous le moteur. Pourtant, il y a un logiciel embarqué sous le moteur. Et dans la mesure où c'est quelque chose de très cher, mais qui n'est pas discriminant pour le consommateur, eh bien, les constructeurs automobiles, aussi concurrents qu'ils soient, aussi rivaux qu'ils soient sur un marché à fort enjeu concurrentiel, eh bien, ont créé un consortium. Et les plus grands aujourd'hui se sont mis autour de la table et se sont dit que s'ils étaient 5 pour développer un logiciel et qu'ils en payaient 20% chacun, ça leur coûterait 5 fois moins cher. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc voilà, ce principe de mutualisation des développements, de partage des coûts, qui trouve toute sa pertinence lorsqu'on est dans le domaine de l'action publique. Et on pourra parler un petit peu tout à l'heure de manière plus poussée des enjeux politiques du logiciel libre. Eh bien, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui se vérifie également dans le domaine industriel, dans le domaine concurrentiel. Et ce qui fait le foisonnement, ce qui fait la diversité, ce qui fait la puissance et l'aboutissement des logiciels libres aujourd'hui, eh bien, c'est la somme de ces trois types de contributeurs, des abatteurs éclairés, bénévoles, passionnés, des agents de la fonction publique payés par une collectivité pour une mission de service public et qui considèrent que dès lors qu'ils ont été payés pour un travail, ils peuvent verser ce travail au pot commun. Et puis des entreprises qui, pour pouvoir poursuivre leur action et leur présence sur un marché fortement concurrentiel, ont un intérêt à mutualiser, à partager les coûts de développement de logiciels éventuellement très pointus, très complexes.
Est-ce que vous êtes dans la politique, Jean-Christophe Becquet ?
Alors, je ne suis pas dans la politique au sens mandataire du terme,
oui.
Mais par contre, je suis donc vice-président d'une association, l'April, qui fait la promotion et la défense du logiciel libre au niveau politique. Mmh. Donc, l'April est très clair sur son positionnement politique. Elle n'a pas de positionnement dans la politique mandataire, puisque la neutralité est ce qui nous permet d'intervenir auprès des élus, quelle que soit leur étiquette, pour les sensibiliser aux enjeux du logiciel libre, parce que les logiciels libres concernent tout le monde. Une des actions phares de l'April, action qu'on pourrait qualifier de citoyenne, c'est l'action qui s'appelle candidat.fr. L'action candidat.fr consiste, à chaque fois qu'il y a une échéance électorale en France, à sensibiliser les membres de l'April, mais également tous les citoyens qui le souhaitent, à la nécessité d'aller expliquer aux élus, aux candidats, les enjeux du logiciel libre. Donc on fait ça pour les élections municipales avec les enjeux qui vont concerner le futur maire, comme par exemple le fait de mettre des logiciels libres dans les écoles. La mairie finance l'équipement et notamment l'équipement informatique des écoles. Le fait de mettre des logiciels libres dans les différents services, des applications comme je citais tout à l'heure, pour la gestion des élections ou du cadastre. Lorsque on a affaire à un candidat aux législatives, ça va être de sensibiliser les candidats sur les problématiques de législation, sur les problématiques de marché public, et d'essayer de mettre un terme à un certain nombre de pratiques qui sont néfastes pour le logiciel libre. Les pratiques qui sont néfastes sur le logiciel libre, c'est notamment ce qu'on appelle la vente liée, le fait que lorsque vous achetez un ordinateur aujourd'hui, on vous facture des logiciels, on vous livre de force l'ordinateur avec un logiciel, avec des logiciels installés, et on ne vous dit ni quel est le coût détaillé des logiciels que vous achetez. Vous achetez un ordinateur, 600 euros, mais on ne vous dit pas quelle est la part de matériel, quelle est la part de logiciel, ça c'est illégal. Et surtout, si vous demandez au vendeur de pouvoir acheter l'ordinateur sans logiciel, à part quelques exceptions, à part quelques cas particuliers, cela va vous être refusé. Donc ça c'est quelque chose qui est illégal et on essaye de mobiliser le législateur sur la nécessité de renforcer la loi et d'appliquer déjà la loi existante pour mettre un terme à ces pratiques de type ventier. De la même manière, lorsque dans un marché public, une collectivité ou une administration demande à acheter des ordinateurs équipés de tel logiciel de telle marque, eh bien, c'est illégal dans un marché public. Lorsqu'on commande un logiciel, on commande un logiciel pour un usage, pour une fonction. On peut citer à titre d'exemple une marque en disant des choses comme par exemple un ordinateur avec un système Windows ou équivalent. Mais s'il n'y a pas la mention ou équivalent, on exclut de la compétition, on exclut de la mise en concurrence les éditeurs de logiciels libres. Et ça, ça fait partie des combats contre lesquels, sur lesquels se mobilise l'April. Et donc, pour ma part, à ma toute petite mesure et à l'échelon local, j'ai participé à l'initiative candidat.fr pour les dernières échéances électorales. Et j'ai obtenu notamment la signature de plusieurs candidats aux dernières élections législatives. Et parmi les signataires, les deux candidats élus, Christophe Castaner et Gilles Bersovan, sont tous les deux signataires du pacte du logiciel libre. Ce qui permet donc qu'ils soient sensibilisés à ces enjeux. Et lorsqu'il y a une loi en débat à l'Assemblée nationale en lien avec le logiciel libre ou susceptible de menacer le logiciel libre, de pouvoir les interpeller en leur demandant d'agir. Le mois dernier, Gilbert Sauvant a posé en tant que député une question écrite au gouvernement sur le coût des acquisitions de licences logicielles propriétaires pour l'administration. Et le fait que cette question existe va permettre de révéler au grand jour l'argent public dépensé dans l'acquisition de licences et permettra donc ensuite de proposer d'autres manières de faire, comme par exemple récupérer cet argent pour le consacrer à la formation des agents ou au développement de logiciels libres, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, un logiciel libre n'a pas forcément un coût nul, parce que si on met des agents informaticiens à plein temps pour développer des logiciels, ça a un coût. Si on confie à travers un marché public le développement d'un logiciel à une entreprise, ça a un coût. Par contre, une fois que c'est payé, si le logiciel est libre, alors tout le monde peut l'utiliser. Et donc, c'est un coût fortement mutualisable. Il y a un retour sur investissement pour l'argent public qui est absolument énorme. Et donc, ça fait partie des enjeux sur lesquels on essaye de mobiliser nos élus.
Jean-Christophe Becquet, merci beaucoup pour tous tes renseignements. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup. Il nous reste que 2 minutes avant de rendre l'antenne pour le journal de RFI. Arnaud Champollion, on va peut-être finir... très vite pour donner les prochaines réunions, peut-être à Digne.
Oui, alors la prochaine réunion à Digne a lieu demain.
Et où et à quelle heure?
Alors les réunions dignoises se passent en fait chez Xalto.
Qu'est-ce que c'est ça?
Alors Xalto, c'est une entreprise d'hébergement web qui nous met gracieusement à disposition un local pour faire ces soirées-là.
Et ça se trouve où?
Alors ça se trouve en fait dans le quartier de l'ancien hôpital. Qui se situe, alors pour les Dinois, si on voit les deux ponts qui enjambent, les deux ponts principaux qui enjambent la Bléone,
oui.
Les deux ponts à sens unique.
L'ancien hôpital où on voit dans la montée.
Juste au-dessus dans la pente, sur la colline.
Il y a une pancarte, il y a quoi? Il y a un numéro de téléphone?
Meilleur conseil que je puisse donner, c'est de consulter le plan d'accès qui se trouve sur le site www.linux-alp.org. Et je pense que c'est plus explicite que si j'essaye de dire vous tournez à droite là, puis à gauche là, parce qu'effectivement, il y a une série de carrefours à prendre dans le bon sens. Et de plus, il vaut mieux le signaler, le quartier n'est pas éclairé de nuit. Donc ceux qui viennent doivent se munir d'une lampe de poche.
On va se quitter là, parce que c'est vraiment à la seconde près le moment de nous quitter. Merci d'être venu parler de ces logiciels libres à l'antenne.
Merci à vous.
Et puis donc, les gens iront sur le site www.linux-alpe.org. Au revoir.